Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Chers abonnés, chers auditeurs du podcast de So Sweet Planet, exceptionnellement, j'ajoute cette petite introduction. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 3 mai 2020. Nous sommes toujours en confinement depuis mi-mars en raison du coronavirus et j'ai mis pendant quelques semaines le podcast en sommeil en raison des difficultés pour enregistrer des interviews. Aujourd'hui, nous avons appris le décès du chanteur kabyle Idir. J'ai rencontré ce grand monsieur pour l'interviewer il y a tout juste 20 ans. J'ai réécouté cette interview ce matin et j'ai eu envie de la partager avec vous parce que je trouve que ses propos sont toujours d'actualité et que les réflexions qu'il livre ici méritent d'être réentendues. C'est pour moi un beau souvenir et vous allez l'entendre, c'est dans la droite ligne des interviews de So Sweet Planet. Alors, en souvenir de Monsieur Idir. Voilà aujourd'hui en compagnie de Monsieur Idir. Bonjour.
Bonjour.
Oui, vous rigolez parce que vous n'aimez pas tellement vous mettre en avant, vous n'aimez pas tellement être considéré comme une star et tout ça. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui ont déjà une grande reconnaissance pour vous. Vous êtes, pour vous présenter au plus grand nombre, vous êtes chanteur kabyle. Enfin, vous allez après étoffer hein, si la définition ne vous satisfait pas. Je crois que c'est celle que vous préférez. Vous vous destiniez à être ingénieur dans les hydrocarbures lorsque vous vous êtes retrouvé au début des années 70 à interpréter une chanson sur une radio. À Vava Inouva, on prononce comme ça ?
En fait, ce n'était pas celle-là, c'était une berceuse. À Vava Inouva, c'était la deuxième face.
D'accord. Qui a été donc qui vous a lancé, puis qui a été le tube qui vous a un petit peu, malgré vous, propulsé dans ce grand monde du showbiz où vous alliez un peu à reculons.
Voilà, c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que j'étais venu à la chanson par hasard, donc j'ai dû remplacer au pied levé une fille qui est très connue chez nous, tout simplement parce qu'elle est tombée malade. Et comme le producteur avait déjà annoncé cette chanson à la radio, c'est une émission de radio avec un public, et il m'a demandé de la faire à sa place parce qu'il avait assisté aux répétitions et qu'il pensait que je la chantais convenablement, quoi. Et donc je me suis inventé le pseudonyme de Idir, qui n'est pas mon vrai nom sur place, croyant que c'était l'aventure d'un soir. Mais je ne savais pas que j'avais mis là le doigt dans un engrenage qui allait complètement changer ma vie. Donc à partir du moment où j'ai fait cette chanson-là, ça a été un méga tube, comme on dit. Donc ça m'a propulsé, disons, au rang de ce qu'ils appellent maintenant star, mais toujours un peu discret, parce que comme ce n'est pas moi qui ai choisi ce métier, je n'en ai pas fait une vocation, j'ai toujours gardé la distance nécessaire, et comme je suis de nature timide, réservé. Les gens connaissaient Idir, mais ne l'avaient jamais vu. Un peu comme l'Arlésienne, quoi. Tout le monde en entend parler, mais personne ne la voit. Jusqu'à ma mère qui me parlait de moi pendant un an, sans savoir que c'était son fils qui était le chanteur concerné, quoi.
Alors, vous aviez choisi ce pseudo, Idir, qui veut dire « il vivra », qui était le nom que les femmes donnaient aux petits-enfants fragiles qui naissaient. Vous l'avez choisi au hasard ou il y avait une intention particulière ?
J'avais choisi de toute façon un nom pour ne pas donner mon vrai nom, ça c'est certain. Mais je ne pense pas l'avoir choisi au hasard, étant donné que j'étais lycéen à Alger, venant de Kabylie, me sentant un petit peu opprimé au niveau de ma culture. De toute façon, si je n'avais pas chanté, j'aurais traduit cette revendication dans un autre domaine. Donc c'était naturel que je choisisse un nom authentiquement kabyle. Donc ce n'était pas un hasard. Non.
Sur la, la culture kabyle, on va y revenir. Le parcours d'ingénieur en hydrocarbures, alors vous l'avez laissé complètement de côté ou est-ce que ça a quand même continué à faire partie de votre vie?
Ah non, j'ai continué, j'ai eu tous mes diplômes, hein, mais comme cette histoire de chanson m'a happé littéralement, donc m'a en fait empêché de faire mon vrai métier. Seulement, il fallait avoir les diplômes parce que pour les parents, l'histoire de chanson, c'était des choses qui n'étaient pas palpables. Chaque mère ou chaque papa en soi voulait voir en son fils un ingénieur, un pharmacien ou un toubib, des choses assez matérielles, assez réelles. Donc il fallait avoir ses diplômes parce que le fils de la voisine avait des diplômes et il fallait contenter les parents, surtout les sécuriser au cas où j'ai toujours ses diplômes en poche.
Vous êtes arrivé en France il y a combien de temps?
Je suis venu en 76 exactement, donc j'avais 21 ans.
Et vous y êtes resté depuis?
Voilà, je suis venu ici tout simplement parce qu'on m'a demandé de venir et comme j'ai commencé à chanter à l'âge de 17 ans, j'ai reçu la visite d'un représentant d'une maison de disques ici qui m'a fait signer un contrat, donc qui m'a obligé à venir pour 7 ans et afin de préparer aussi ce qu'ils appelaient à l'époque un 33 tours. Et c'est comme ça, après j'ai fait de la promotion, j'ai fait des galas et j'ai appris ce métier sur le tas.
Par contre, vous n'avez pas fait beaucoup d'albums parce que je crois que c'est que Identité est le troisième album en 22 ans de carrière.
C'est vrai, parce que je pense que c'est parce que je n'ai pas choisi ce métier. C'est lui qui est venu à moi. Et je me demande dans quelle mesure il ne m'a pas donné la distance nécessaire pour être moi-même à chaque fois. Comme je n'en ai pas fait une vocation, je suis incapable de te dire cette année je prépare un album, ensuite le prochain ce sera dans 4 ans. Comme je suis aussi incapable de te dire demain à 8h15 je prends un stylo pour écrire. Les choses viennent ou ne viennent pas. Et en plus, je chante ce qui fait vraiment partie de mon histoire, de mon parcours, soit tout seul, soit avec toi, avec les autres. Et que, somme toute, quand je n'ai rien à dire, ben, je me tais, tout simplement.
Et alors, des choses à dire, vous en avez eu, vous en avez. Donc, je voudrais qu'on parle un petit peu de la Kabylie, puisqu'il en est quand même question, et beaucoup dans cet album, plus ou moins directement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette Kabylie, de ce qu'elle représente pour vous? Et vous disiez tout à l'heure, si ce n'avait pas été à travers la chanson, ce serait à travers autre chose que j'aurais voulu exprimer ces revendications. Donc, qu'aviez-vous à dire à cette époque-là et est-ce que ces revendications sont restées les mêmes aujourd'hui?
D'abord, la Kabylie, c'est une région de l'Algérie. Donc, il se trouve que c'est ma région natale et que c'est une région qui a une personnalité particulière dans la mesure où la langue qui est parlée est différente de la langue officielle et idéologique des systèmes, des gouvernements en place. Il se trouve que le Kabyle que je parle est une langue commune à celles parlées par les Touaregs dans le sud ou par les Cheleux au Maroc, par les gens de la presqu'île de Siwa en Égypte. Donc cette langue appartient à un territoire qui va des îles Canaries jusqu'en Égypte. C'est te dire un peu la grande superficie qu'elle a. Or il se trouve que politiquement les gens qui sont au pouvoir ne donnent pas, si tu veux, sa pleine reconnaissance à sa culture, ce qui fait que ça crée un malaise, un besoin de la part des gens qui la parlent, qui la pratiquent, puisqu'ils ne sont pas reconnus, ils se sentent un peu opprimés. Et donc, quand on est lycéen, on se focalise beaucoup sur l'identité culturelle et on se bat pour ça. Donc, on a fait des manifs, on s'organise, on travaille de façon à la faire reconnaître et surtout la développer aussi entre nous. Ce qui était curieux à l'époque, c'était qu'on pouvait appartenir à un pays qui était, disons, un des phares du tiers-monde, quelqu'un qui, au visage de la planète entière, avait réussi sa révolution. On était fiers de recevoir Che Guevara, Castro. On était un petit peu dans cette mouvance, donc autant on était aussi content de voir notre gouvernement prôner la liberté des peuples à se prendre en charge eux-mêmes. Autant on était perturbés parce que nous, dans notre culture maternelle, on n'était pas reconnus. Donc il y avait une espèce de contradiction qui faisait naître en nous une révolte.
Et vous n'étiez pas reconnus ou vous étiez niés?
Nous n'étions pas reconnus. Nous n'étions pas niés dans la mesure où on pouvait s'exprimer librement en kabyle. Dans la rue, dans les villages, il y avait une radio kabyle, elle existe toujours. Mais officiellement, on n'a pas de définition propre puisque En 62, quand on a retrouvé notre intégrité territoriale, quand il s'était agi de donner une définition à la personnalité de l'Algérie, on a cru bon la rattacher à un monde arabe un peu abstrait, mythique, autour duquel on ne pouvait pas former une union, ni politique, parce qu'il y avait des États arabes, des royaumes, des modèles socialistes, des libéralismes à la tunisienne, ni culturel, parce que si je n'étais pas sorti de mon village, je n'aurais jamais parlé un mot d'arabe, voilà. Et encore moins religieuse, parce que le fait d'être musulman n'impliquait pas être arabe seulement, puisqu'il y a des Bosniaques qui sont musulmans, des Chinois. Donc cette Algérie-là, ce système-là, ne reconnaissait pas les spécificités culturelles inhérentes à chaque région. Donc pas de pays reconnu dans sa diversité. Voilà, donc c'est pour ça que nous, se sentant un peu écartés, opprimés, politique oblige, donc on réagissait de cette manière-là. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, de toute façon, si je n'avais pas fait ça dans la chanson, je l'aurais fait ailleurs, en écrivant peut-être un roman, ou en faisant du théâtre, ou autrement.
Avec cet album, vous avez voulu l'aborder comment aujourd'hui, le thème de l'identité ?
Au pluriel d'abord, parce que je pense que la planète entière souffre d'un mal d'identité et on sait où les différences d'identité peuvent mener à des moments. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe au Kosovo, sur toile de fond religieuse, ethnique. On a vu les massacres que ça a donné au Rwanda, au Zaïre. Tout ça parce que on a tendance à dire, nous, on a une identité, celle de l'autre est complètement différente et que forcément on n'a rien à voir. Or, on va vers une planète qui se mondialise de plus en plus. Vous, ici, l'Europe est en train de se faire. Les choses se mélangent et même s'il y a plus ou moins longue échéance, je ne me fais pas d'illusions parce qu'on sera tous plus ou moins coca-colonisés. Culture dominante oblige, je crois que chacun a envie de vivre avec son identité. Le problème simplement est de savoir si moi en tant que Kabyle je dois manger, penser, pleurer Kabyle chez moi, et au sortir de ma maison du Val d'Oise quand je vais sur Paris, je joue au français avec toi ou je discute autrement, est-ce que je suis moi-même ou pas, tu comprends? Alors est-ce que je dois garder mon identité pour moi et jouer autre chose à l'extérieur, ou dire, bon, c'est mon identité, tu me montres la tienne, on les fait se mélanger de façon à ce qu'il y ait une espèce de terrain de communication à défaut d'identité commune, parce que ce n'est pas grave si, au contraire, c'est bien quand on est différent. Et je crois que l'exemple de la Coupe du Monde ici en France, pour être dans le sport, a montré qu'il y a 11 joueurs qui viennent d'horizons différents, qui se battent pour une coupe à ramener à une nation, à un pays. Et le fait qu'ils viennent d'horizons différents suppose qu'il y ait des identités différentes et que ces identités différentes, par leur talent, là en l'occurrence c'est physique, c'est du sport, peuvent aboutir à des résultats positifs qui font qu'ils unissent les gens au lieu de les séparer. Tu vois ? Et ça, je pense que c'est un exemple qui est assez intéressant qu'on peut reporter sur d'autres domaines. Le fait de mélanger des identités, on pourrait craindre au départ de perdre un peu de soi-même, puisqu'on se mélange forcément. Mais au regard de ce qu'on a à gagner, ça vaut le coup de la vivre, je pense. Et il faut arrêter de dire qu'il y a un peuple de France, comme certains partis extrémistes le prônent. Il y a des peuples de France, mais chacun avec sa spécificité. Parce que le Breton, même s'il peut se sentir français, ne peut pas oublier qu'il a son côté celtique, son histoire, cette raison supplémentaire d'être français surtout. Et au lieu qu'elle soit uniformisatrice, cette langue française devrait être fédératrice de toutes ces identités-là. Donc c'est un petit peu, puisqu'on vit en France, on parle de l'exemple français, c'est un peu ce qu'essaye de faire ce disque-là. D'abord, c'est égoïstement, je l'ai pensé par rapport à moi, qui suis minoritaire et ici et là-bas. Comment je me place par rapport à toi? Avec qui je dois chanter? Comment partager? Est-ce qu'il faut faire des chansons qui constituent des plaquages d'un style sur un autre dont on verra bien le clivage? Ou alors il faut que ça soit vraiment une osmose, de façon à ce qu'on sente qu'il y a quelque chose d'homogène? Tout est là, en fait. Je ne sais pas. L'idée était viable, Maintenant, pour les chansons, je ne sais pas si on a loupé notre coup, si on l'a réussi. Ça, tu sais, c'est des choses, c'est une question de goût. Et puis, des choses que tu réussis mieux que d'autres ou moins bien. Mais l'idée d'identité, je pense qu'elle est importante parce qu'elle est d'actualité.
Dans les gens avec qui vous avez partagé tout ça sur cet album, il y a Manu Chao, Zebda, Geoffrey Riemann, Maxime Le Forestier, Gnawa Diffusion, je ne vais pas tous les énumérer. Ces rencontres, bon, je sais qu'au départ, ça devait être un disque hommage et puis l'idée ne vous séduisait pas tellement. Vous avez préféré partager ces titres avec des gens que vous invitiez et chez qui vous alliez. Parce que j'ai lu que vous n'avez pas fait venir tout le monde comme ça défiler dans un studio pour chanter avec vous, mais vous êtes allé sur les lieux, rencontrer les gens avec qui enfin qui allaient chanter avec vous et vous vous êtes un petit peu mis dans leur univers.
C'est ça. En fait, c'est pas que l'idée m'a passé du haut départ. Tu sais, honnêtement, ça fait toujours plaisir d'être reconnu, d'être interprété. Mais bon, enfin, franchement, honnêtement, après, quand tu réfléchis un petit peu, tu sais que le soir, quand tu rentres et que tu es devant la glace de ta salle de bain, c'est là où tu es toi-même. J'ai pensé que c'était pas une fin en soi, franchement. Alors, quand l'idée s'est acheminée beaucoup plus vers un sens de partage, où chacun a amené quelque chose, là vraiment, c'était beaucoup plus important. Et on m'a demandé de faire une liste de gens avec qui j'aimerais travailler, que j'aimais bien. Donc, j'ai fait cette liste. Il s'est trouvé que, par bonheur, que les gens ont répondu présent. Alors, je pensais même pas qu'ils me connaissaient, pour certains. Tu vois, quand tu es dans ton coin à gratter la guitare, tu mets ces gens-là sur un piédestal. C'est sans illusion au départ. Donc, t'imagines un peu le plaisir que tu as. Ensuite, effectivement, quand il s'agit de Karen Matheson en Écosse, il a fallu que j'aille là-bas. J'étais à Toulouse pour enregistrer avec Zebda. Bon, sinon, il y en a pas mal qui sont quand même dans la région. J'ai pas eu beaucoup à me déplacer dans le fond. On a eu des contacts personnels, d'abord une prise de contact au départ pour discuter un petit peu. L'idée, c'était de, est-ce qu'il fallait faire une chanson inédite, est-ce qu'il fallait faire une chanson à moi ou à eux? C'était assez libre, sinon ce serait plus identité. Bon, il s'est trouvé que la plupart des gens avaient choisi des chansons de mon répertoire, et c'est comme ça que l'idée a fait son chemin. Ça a été assez difficile parce que je suis seul, ils étaient 13, avec chacun sa disponibilité, sa sensibilité. Mais je crois qu'au-delà de cette difficulté, à chaque fois que la musique venait sur le terrain, là, c'était le même code, c'était le même langage. Et ça facilitait tout, en fait.
Mais j'ai lu justement à ce propos que la première fois que vous aviez entendu Alan Stivell, vous vous étiez dit, mais c'est qui ce Kabyle qui chante pas en Kabyle? C'est vrai?
Ah oui. C'est vrai parce que tu écoutes une musique qui est proche de ton univers. Et ce n'est pas la même langue. Alors tu es perturbé parce que tu sais plus trop. C'est une musique qui vient de chez toi avec les mêmes sonorités. En l'occurrence, la bombarde ressemble énormément à la gaïta de chez nous. Les rythmiques étaient à peu près les mêmes. Donc, j'étais vraiment bouleversé. Et je me suis dit que si un jour j'allais en France, c'est sûr qu'il fallait que j'aille écouter ces disques. D'ailleurs, c'est une des premières choses que j'ai faites, c'est d'aller dans les magasins de disques et de dévaliser tout ce qui était celtique, tellement c'était proche. C'est étonnant, d'ailleurs, beaucoup de gens me disent, mais pourquoi est-ce qu'il y a de ces affinités entre ces musiques-là? Alors, bon, chacun invente son refrain, tu sais, tous les pseudo-intellos, les sociologues, les musicologues, chacun te dit, bon, peut-être que les Celtes avaient voyagé là, ou les Berbères étaient venus. Moi, je dis, peu importe, je crois que l'important, c'est que cette affinité existe et qu'elle nous permette de communiquer, de faire quelque chose ensemble.
Alors la chanson avec Maxime Le Forestier, ça c'est une chanson donc de Le Forestier, San Francisco, qui a été adaptée. Je crois qu'elle avait été adaptée par Brahim Isery. Donc là, vous l'avez reprise. Il n'est plus question de San Francisco.
Oui, on a changé San Francisco en Tizi Ouzou, qui est la capitale, disons, de la Kabylie. Mais en fait, le texte avait été fait par Brahim Isery depuis quelques années déjà, parce que la mélodie lui plaisait. Il a eu l'idée donc de transposer sur Tizi Ouzou avec la même maison bleue, donc ouverte, où la clé n'existait pas, une espèce de générosité que Maxime a su rendre dans sa chanson. Mais comme depuis le temps en Algérie, il s'est passé pas mal de choses, il a dû revoir le texte aussi. Et c'est là qu'on a eu la surprise de voir que Maxime, en acceptant de travailler avec nous, donc avec Brahim et moi, il nous a dit qu'il voulait chanter en Kabyle cette fois-ci, un petit peu pour rendre hommage à cette culture. Et il voulait aussi dire des mots par rapport à un artiste qu'on a perdu, voici bientôt 2 ans, Matou Blounès. Et pour traiter cette chanson, on a voulu aussi respecter le style de musique que faisait Matoub. Tu sais, une espèce de musique un peu shabby chez nous, populaire, qu'on l'on fait surtout à Alger, et que Matoub aimait bien. Donc ça a donné ce que tu as entendu là.
Alors, dans votre jeunesse, vous écoutiez Deep Purple, Hendrix, les Doors. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes resté proche de la frange rock anglo-saxonne?
Un peu quand même. J'écoutais Hendrix par rapport au musicien qu'il était. C'est parce que c'est un guitariste hors pair, comme l'était Santana aussi. C'est toutes ces mouvances-là, effectivement, que j'écoutais. Puis, comme à 17 ans, j'étais en pleine période de Love and Peace et tout ça, avec le folk song, la pop musique, Simon et Garfunkel et tout ça. Je crois qu'à l'exception de Dylan, j'aimais pratiquement tout le monde. Et je suppose que ma musique a été influencée par ça. Maintenant, avec l'avènement des musiques du monde, les nouveaux genres de musique, le reggae, le rap, etc., tu ne peux pas rester insensible. Donc forcément, quand tu voyages, tu charries avec toi d'autres choses qui t'influencent. Maintenant, j'écoute de tout. Ça peut aller de Ado FM jusqu'à Voltage, en passant par Beurre FM et Radio Classique. Je suis un musicophage, je ne sais pas si on dit ça. Je suis assez gloutant là-dessus.
On va le dire. Alors là, pour votre actualité, donc ce très bel album Identité, et puis un concert donc prévu au Zénith. Alors là, on sait qu'il y a eu quelques petits soucis avec le Zénith. Est-ce que le concert est maintenu?
Le concert est maintenu malgré tout, parce qu'en fait, ce n'était pas une interdiction, mais ça, on l'a su sur le tard. Et ce qui fait qu'ils ont décidé de maintenir les concerts jusqu'à fin juin. Et la date qui nous est donnée faisait partie donc de cette période. Donc c'est pour le 25 mars. La tournée se fait actuellement de toute façon, puisqu'on avait présenté ce disque en décembre dernier à l'Olympia. On a fait quelques soirées à l'Olympia. Et puis là maintenant, on est en train de faire, pas une tournée, mais disons des galas ponctuels. J'aime pas trop les tournées parce que tu sais, tu te répètes du jour au lendemain et j'éprouve un malaise comme ça mécaniquement à faire les choses.
Vous, en fait, vous n'avez quasiment jamais arrêté d'être en tournée, c'est pas en tournée, c'est votre formule de tournée à vous.
J'ai jamais arrêté de tourner, même si je suis assez discret et puis qu'en 22 ans, 3 disques, c'est pas beaucoup. Il se trouve que j'ai une chance incroyable parce que ça marche. Bon. Et qu'en fait, je n'ai fait que vivre de ce métier. Mais j'ai vite compris qu'entre le disque et la scène, c'était plutôt la scène qui était la véritable température de ce métier. Tu peux louper un disque, le réussir, mais tu as toute la distance nécessaire pour le réussir, refaire ta voix, tu es à l'aise. Tandis que sur scène, c'est en temps réel, c'est le moment de vérité, et le public sait si ça passe ou si ça ne passe pas. Et donc c'est là, pour peu que tu aies du respect pour le métier que tu fais, c'est là où il faut le faire le plus, je pense, parce que c'est là où tu triches le moins de toute façon.
Très bien, on vous remercie beaucoup, beaucoup. Et puis, on vous souhaite encore de très belles dates. J'hésite à vous dire ça parce que si vous nous remettez autant de temps à nous offrir un nouvel album, en tout cas de très belles dates avec cet album et puis ces titres, donc peut-être des invités de l'album au Zénith.
Oui, on en aura certains de toute façon, oui, bien sûr.
D'accord, alors bonne soirée et puis bonne continuation. Au revoir.
Merci beaucoup et au revoir.
Voilà, je vous rappelle que cette interview a été enregistrée il y a tout juste 20 ans, en 2000. Chers auditeurs, si vous avez apprécié cet entretien, merci de mettre 5 étoiles au podcast de So Sweet Planet sur iTunes. C'est très important pour qu'il ait plus de visibilité. N'oubliez pas de vous abonner, soit à la newsletter sur sosweetplanet.com ou sur iTunes, au podcast, ou les deux, pour être informé des prochains podcasts mis en ligne. À bientôt.